Vous êtes sur RTL. Avec Pascal Pro.
Et vous comprendrez aisément que notre émission Les Auditeurs ont la parole sera perturbée par ce qui se passe dans Paris. Elle sera différente des autres jours. On va rappeler avec vous ce qui se passe précisément, Christophe Paco.
Attentat au couteau à l'arme blanche. Il y a quelques instants, rue Nicolas Appert, où se trouvaient les anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, tout près du boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Attaque au couteau qui a donc fait 4 blessés à l'arme blanche, dont 2 personnes pour l'instant en urgence absolue. On essaie de récupérer un des deux assaillants pour l'instant. Et Sinamir est avec nous justement en liaison sur place dans le 11e arrondissement.
En direct du boulevard Richard Lenoir, où le périmètre de sécurité policier s'est bien sûr élargi tout autour des anciens locaux de Charlie Hebdo. On me demande justement à l'instant de reculer ce que je fais. Excusez-moi Christophe. Effectivement, beaucoup de présence policière actuellement sur place. On a vu notamment la brigade de recherche et d'intervention, des fourgons noirs avec des hommes casqués, armés et cagoulés pour pouvoir sécuriser tout autour de ces rues du 11e arrondissement où les métros ont été fermés. Métro Bastille, métro Chemin Vert, métro Richard Lenoir, bien sûr, après cette attaque au couteau qui serait survenue dans la matinée un peu avant midi. Un homme aurait peut-être été interpellé juste après, aux alentours de la place de la Bastille. Des informations que l'on cherche encore à confirmer. Ce qui est sûr, c'est que 2 blessés sont en urgence absolue après cette attaque au couteau qui s'est donc déroulée autour des locaux de Charlie Hebdo qui avait été ciblé le 7 janvier 2015. On connaît le contexte, on sait qu'actuellement il y a un procès en cours, bien sûr, autour de cet attentat de Charlie Hebdo, et donc le symbole, on ne peut pas le négliger juste après cette attaque qui serait survenue donc un peu avant midi dans ce quartier du 11e arrondissement, complètement bouclé actuellement avec à la circulation et avec énormément, vous entendez les sirènes derrière moi, de présence policière sur place.
Et Thomas Proto nous a rejoint évidemment, qui nous fait part évidemment de l'actualité minute par minute avec vous, les envoyés spéciaux sur place, Raphaël Vantard, et vous Sinamir, merci encore. On entend, vous êtes pour l'instant à une distance de sécurité. On a même mis les élèves pour l'instant en confinement par précaution, hein, Thomas, il y a quelques minutes.
Hein. Absolument, on vient de l'apprendre de la part de la préfecture de police. Les écoles du 11e, du 3e et du 4e arrondissement de Paris sont confinées. Évidemment, par précaution, hein, on l'insiste bien, c'est par précaution, car il y a encore des incertitudes sur à la fois ce qui s'est produit et les auteurs. Ce qui est confirmé désormais, c'est qu'il y a bien eu une interpellation dans le secteur Bastille, d'un homme visiblement suspect qui visiblement portait des traces de sang. Alors, il a été question d'un deuxième homme. Vraiment, on va rester très prudent sur ce deuxième homme. Voilà, parce que ça a été dit, finalement, ça n'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, il y a des recherches qui continuent à être effectuées. Pour ce qui est dans ce secteur, c'est pour ça qu'il y a énormément de policiers dans le secteur, si vous vous y trouvez. Des nouvelles un peu rassurantes, tout de même, des blessés. Il y a bien 2 blessés en urgence absolue, mais ils n'ont pas leur pronostic vital engagé, n'est-ce pas? Et là aussi, on ne sait pas si 2 ou 4 blessés, il y en aurait 2 autres moins gravement touchés. Là aussi, voilà, ça reste à confirmer. On attend un petit peu que tout cela remonte.
On parlait d'un colis suspect également, pour être complet.
Voilà, pareil, levée de doute. Il y a un sac peut-être ou un colis qui a semblé étrange. Levée de doute avec les démineurs de la préfecture de police de Paris pour voir ce qui se produit. Au niveau politique, on le disait,
William Galibert nous rejoint justement au niveau politique, puisqu'on sait que.
Et donc,
c'est ça, le Premier ministre est arrivé à Beauvau.
Oui, c'est ça. Une grande partie du gouvernement était réunie ce matin en Seine-Saint-Denis pour un déplacement sur le développement du département. Jean Castex était là-bas, aux côtés de Gérald Darmanin. C'est depuis la Seine-Saint-Denis qu'ils ont appris les événements qui étaient en cours dans le 11e arrondissement. Ils sont maintenant à Beauvau, au centre de crise. Quant à Emmanuel Macron, lui, il suit pour l'instant tous les événements depuis le palais de l'Élysée. Il n'a pas prévu, le président, pour l'instant, de se rendre ni au centre de crise et non plus sur place dans le 11e arrondissement.
Merci William Galibert. Thomas Proto, nos envoyés spéciaux par toute la rédaction RTL mobilisée, bien sûr, après cette attaque à Paris en fin de matinée, attaque au couteau et pour l'instant 4 blessés. Merci messieurs, 13h06, je laisse la parole dans un instant, juste après la pub, juste après une courte pause à Pascal.
Et peut-être que Thomas Proto peut rester quelques secondes encore en studio avec nous, avec William Galibert. On va marquer une pause, mais c'est évidemment difficile d'enchaîner avec l'émission telle qu'on l'avait imaginée, puisque ce qui se passe dans Paris est dramatique. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous le savez, attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 blessés en urgence absolue selon la préfecture de police. Un suspect qui a été arrêté place de la Bastille, toujours selon la préfecture de police. Et une cellule de crise est ouverte à Beauvau. Nous sommes avec Raphaël Vantard sur place.
Oui, et sur ce boulevard Richard Lenoir, vous l'entendez, hein, les sirènes continuent d'hurler parce qu'il y a encore énormément de forces de l'ordre qui sont en train de se déployer pour sécuriser au maximum tout le secteur parce que vous l'avez dit, effectivement, un suspect aurait été arrêté, il y en aurait peut-être un autre dans la nature, donc forcément il y a tout un protocole de sécurité, un périmètre qui est en train de se mettre en place. La BRI, hein, l'unité d'élite de la police est casquée, elle est là présente sur ce boulevard Richard Lenoir, prête à intervenir et on sent effectivement... les policiers dans un degré de tension extrême, hein, ils bloquent tous les riverains, c'est très compliqué. Thomas Proto, vous le disiez il y a quelques instants, les écoles autour sont confinées évidemment pour des raisons de sécurité. Les quelques riverains avec lesquels on a pu discuter, qui ont pu voir quelque chose, notamment Héloïse là il y a quelques instants, elle nous racontait qu'elle a vu un homme avec une hache s'en prendre dans la rue à d'autres personnes et que des riverains seraient descendus pour essayer avec des bâtons de faire fuir cette personne-là, ce suspect-là. Est-ce que c'est le suspect qui est arrêté de ça? Bien sûr, il est évidemment trop tôt pour le dire. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un énorme déploiement ici de forces de sécurité, y compris des militaires, avec les FAMAS en main et qui sont en mode d'intervention. C'est-à-dire qu'ils ont le fusil en main, ils sont prêts à intervenir en cas de problème.
Merci Raphaël Vantard. Évidemment, vous restez sur place et avec nous durant toute cette émission spéciale consacrée à cette attaque à l'arme blanche. Thomas Proutot, qu'est-ce que l'on sait du commencement de l'enquête?
Alors, l'enquête débute à peine puisque un homme a été interpellé. Donc, c'est une enquête qui va faire des progrès très rapides puisque dans beaucoup de ces actes, de ces attaques ces dernières années, on avait des assaillants qui mouraient quasiment au moment même de l'assaut. Ils cherchaient à mourir en affrontant notamment les policiers. Là, il a été interpellé. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'il n'est pas identifié. Il n'est pas encore identifié, ce qui veut dire d'abord qu'il n'y a pas papier sur lui, qu'il n'est pas forcément fiché, justement. Voilà. Il y a des photos qui circulent, il y a des descriptions qui circulent. Tout ça, ça reste évidemment entièrement au conditionnel, puisque la priorité à ce stade, c'est d'écarter l'hypothèse d'un autre assaillant qui serait en fuite ou de l'interpeller. C'est pour ça que les écoles ont été fermées dans 3 arrondissements de Paris, qu'il y a un gros déploiement policier pour les gens qui sont sur place. C'est impressionnant, mais c'est nécessaire. Et bien sûr, ce qui va devoir déterminer l'enquête, c'est est-ce que on a presque envie de penser que c'est sûr, mais il va falloir regarder ça de très près. Est-ce que cet endroit a été choisi symboliquement volontairement justement pour
au moment du procès de Charlie Hebdo, bien sûr,
2015 et donc de Charlie Hebdo.
Et chacun fait le rapprochement pour le moment avec grande prudence, bien sûr, entre le lieu de cet attentat près des anciens locaux de Charlie Hebdo. D'ailleurs, lorsqu'on dit près, est-ce qu'on sait si c'est à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres?
Non, justement, c'est ce qu'il faut qu'on confirme. Mais il semblerait que ce soit dans la rue Nicolas Appert, cette rue même où les locaux de Charlie Hebdo étaient installés. Ils ne sont plus là aujourd'hui.
Bien sûr.
Et cette rue est une toute petite rue, vraiment du 11e arrondissement. Il n'y a aucune raison de se trouver là. Il n'y a pas de commerce, il y a peu de passages. Si c'est bien ça qui est confirmé, bien cette adresse-là, il y restera peu de doute sur la volonté effectivement symbolique de vouloir s'en prendre de nouveau au journal et aussi à la mémoire, bien sûr, des victimes des attentats de janvier 2015.
Il y a toujours une très grande prudence dont on fait preuve dans ces cas-là, puisque à quelle heure précisément on a eu cette information?
Un tout petit peu après-midi, évidemment. C'est allé très très vite sur les réseaux sociaux et on a très très vite su qu'il y avait une attaque.
Oui. Donc il est 13h13 pour le moment et effectivement c'est peu de choses, sinon c'est 2 blessés qui sont en urgence absolue, c'est ce qu'a communiqué tout à l'heure la préfecture de Paris. De la même manière, on ne sait pas combien de personnes précisément sont à l'origine de cette attaque.
Non, on ne sait pas exactement combien de personnes. Je vous dis, il y a eu à un moment donné l'idée qu'il y avait 2 personnes. Il semblerait qu'il y ait un doute, mais dans ce moment-là, les témoins peuvent se tromper. Tout le monde est en panique. Donc voilà, il va falloir regarder les bandes de vidéosurveillance, il va falloir interroger les témoins et évidemment voir si quelqu'un d'autre dans Paris est interpellé.
Merci Thomas Proutot. On va marquer une nouvelle page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 blessés en urgence absolue. Un suspect arrêté. Aucun engin explosif détecté aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo. C'est ce que nous savons précisément à 13h16. Raphaël Vantard est sur place.
Oui, tout à fait, avec un grand déploiement pour l'instant de forces de l'ordre aux abords de cette rue. Nicolas Appert, les anciens locaux de Charlie Hebdo et des militaires qui arrivent en renfort au fur et à mesure, des militaires de l'opération Vigipirate qui sont en train de prendre position dans toutes les rues aux alentours. Il y a un déploiement de forces de l'ordre dans presque chaque hall d'immeuble. Là, c'est assez impressionnant à voir, avec des contrôles évidemment d'identité des passants pour vérifier qu'un individu ne serait pas aux alentours et pourrait commettre encore des attaques au couteau. Pour le moment, voilà, il y a aussi une pluie qui tombe sur tout ce quartier et donc qui favorise le l'effet de sidération dans lequel est tombé ce quartier qui a déjà vécu au moment des attentats de Charlie Hebdo un drame et qui le revit en ce moment avec forcément ce balai de sirènes, ce balai de camions de pompiers, ce balai de camions de police et la BRI, l'unité d'élite de la police nationale, qui est présente et qui est prête à intervenir. Les hommes sont casqués tout près de nous. Ils sont prêts à intervenir éventuellement en cas d'interpellation. Les écoles aux alentours sont toutes confinées évidemment pour des raisons de sécurité et les policiers que l'on voit là portent quasiment tous la cagoule, ce qui signifie que voilà, ils sont en cours d'intervention.
Merci Raphaël. Et puis il y a quelques minutes, vous avez pu interroger un témoin, une jeune femme, Héloïse.
Une personne qui en a attaqué d'autres à la hache. Et il a laissé la hache au pied du métro Richard Lenoir. Et les riverains sont descendus avec des bâtons pour essayer de, j'imagine, défendre les gens qui étaient là. Mais la personne s'est enfuie. J'ai juste vu la hache au pied qui a été abandonnée là au pied du métro. J'ai cru en fait un monsieur est arrivé en civil avec une mitraillette. J'ai cru qu'il allait nous tirer dessus. Il y avait un autre monsieur avec moi, on a eu la même crainte. Et en fait, c'était quelqu'un déjà de la police qui est arrivé en premier, mais en civil. Et après, la police est arrivée après pour essayer de faire quelque chose. Et ensuite, ils ont fait venir les pompiers pour secourir les gens. Bonjour. Voilà.
Premier témoignage donc recueilli par Raphaël Vintard d'Héloïse. William Galibert, le Premier ministre est sur place ?
Il n'est pas sur place, il est en ce moment au centre de crise de Beauvau. Il faut s'imaginer que ce matin, tout ce que le gouvernement compte de ministres était réuni, Jean Castex y compris, en Seine-Saint-Denis, à Pantin. Un discours était prévu, le pupitre était dressé et c'est Jean Castex qui s'est présenté aux alentours de 12h30 pour annoncer tout simplement qu'il venait d'être informé des événements dans le 11e arrondissement, que dans ces conditions il ne pouvait pas rester et qu'il devait immédiatement s'en aller. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était à ses côtés et les deux hommes sont partis en convoi pour arriver très vite à la cellule de crise qui vient d'être ouverte place Beauvau. Quant à Emmanuel Macron, lui, pour l'instant, il a choisi de ne pas rejoindre son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Il suit la situation depuis l'Élysée, nous disent ses conseillers. Il se tient prêt éventuellement à bouger si la situation l'exige.
Thomas Proutot, la brigade criminelle est évidemment saisie, mais pour le moment, il n'y a pas de piste de terrorisme. C'est vrai que cette information n'a que quelques heures, moins même de deux heures, mais la piste de terrorisme, pour le moment, elle n'est pas envisagée.
Bien sûr, dans ces cas-là, dans le cas d'une attaque comme celle-là, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour, le lieu, vraisemblablement la multiplicité des cibles, l'homme possiblement en fuite et qui ne s'est pas rendu de lui-même aux policiers, qui est parti vers Bastille avant d'être interpellé, tout concourt à penser à un acte terroriste. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Le parquet national antiterroriste met ce qu'on appelle en observation, regarde les premiers faits qui lui remontent. Si la dimension terroriste devient plus solide, se concrétise à ce moment-là, c'est lui qui prendra la main sur la conduite des investigations. Mais c'est d'ores et déjà, vous le disiez, la brigade criminelle de Paris qui est saisie, la brigade criminelle de Paris qui comporte elle-même une section antiterroriste pour la capitale et donc elle peut faire les deux travaux en même temps, le travail d'enquête en même temps et piloter la BRI qui, elle, est chargée, nos reporters sur place, Raphaël Vintard et Sinamien nous le décrivaient, avec tous ces policiers masqués, cagoulés, prêts à intervenir, cette BRI qui va assurer la partie opérationnelle s'il doit y avoir une interpellation un peu compliquée à effectuer et de sécurisation de ce secteur de Paris.
Vous avez raison de le préciser, je voulais faire preuve de prudence, mais le mot envisagé n'était évidemment pas adéquat, et il n'était pas avéré cette piste terroriste, c'est évidemment ce que j'imaginais de dire. Raphaël Vintard est présent sur place près des anciens locaux de Charlie.
Oui, tout près de la rue Nicolas Appert, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'allées et venues actuellement. Toujours des camions de secours hein, qui sont postés au cas où il y aurait d'autres victimes, au cas où il y ait aussi des personnes dans les alentours hein, de ce quartier qui reste un quartier meurtri, qui aurait des réactions de malaise, qui pourrait se comprendre. Actuellement, devant nous aussi, les équipes cynophiles hein, qui sont en train d'inspecter chaque voiture à l'aide de chiens pour vérifier qu'un colis suspect ne s'y trouve pas. Il y en avait un tout à l'heure, apparemment, l'alerte a été levée, mais voilà, ces équipes sont toujours là, rue Nicolas Appert, en train d'examiner chaque véhicule. Gros déploiement également hein, de policiers sur tous les alentours, le boulevard Richard Lenoir, la BRI toujours près, des équipes aussi d'élite de gendarmerie hein, qui sont prêtes à intervenir, armées au cas où.
Et on peut évoquer évidemment la France qui a souvent été victime d'attentats ces dernières années avec vous, William Galibert.
Oui, mais c'est vrai que depuis 5 mois, la crise sanitaire avait un peu tout balayé sur son passage. Et c'est peut-être, si cette piste terroriste se confirme, un retour à une réalité un peu plus dure. Depuis l'attaque de Colombes et l'attaque de Romans-sur-Isère au mois d'avril, le président Macron, l'exécutif, avait concentré quasiment l'intégralité de ses efforts sur la crise sanitaire, sur la relance économique. Et là, c'est donc, oui, peut-être un retour à une autre réalité qu'on avait peut-être oublié après des mois et des mois à ne parler que du Covid.
Je rappelle que cette attaque a eu lieu peu avant midi dans le 11e arrondissement de Paris, que cette attaque à l'arme blanche s'est déroulée près des anciens locaux de Charlie Hebdo et qu'évidemment chacun fera le rapprochement possible. Frédéric Ancel est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez des informations à nous rapporter de ce qui se passe dans Paris ?
Des informations précises sur ce qui se passe dans Paris, non. Ce que je peux en revanche vous dire comme universitaire spécialisé sur les questions de terrorisme et en particulier d'islamisme radical, c'est que ces dernières années, la menace n'a absolument jamais diminué. C'est-à-dire que d'un point de vue quantitatif, en termes de nombre de gens en France ou à l'étranger souhaitant frapper la France à travers différentes de ses cibles, d'une part. D'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire quant à la doctrine et au procédé, au modus operandi qui est utilisé, rien n'a changé. Autrement dit, le degré de la menace et la nature de la menace demeurent, contrairement à ce qu'on a pu croire ces dernières années. Ce qui a un petit peu changé, heureusement, bien, c'est que nous nous sommes adaptés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces de sécurité, d'abord les citoyens de manière générale, les forces de sécurité, donc la police, mais également au fond, l'armée, parce que nous luttons sur un front qui s'appelle le Sahel et qui n'est pas moins important hein, que le front intérieur, entre guillemets. Là, on a beaucoup progressé. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais si il s'agissait d'un attentat de nature islamiste, qui est pas sûr, mais ce qui est vraisemblable au regard du moment, un procès de Charlie Hebdo et du lieu, anciens locaux de Charlie, je vous dirais que c'est quelque chose qui, malheureusement, était à prévoir.
Frédéric Ancel, auteur du livre « Les 100 mots de la guerre » aux éditions Presse Universitaire. Ce qui était frappant également ces derniers mois, c'est que souvent ces attentats étaient faits par des hommes seuls, au contraire des attentats de 2015 et des attentats également du Stade de France, où on avait le sentiment qu'il y avait une organisation derrière, alors que là, très souvent, ce sont des individus radicalisés seuls qui sont passés à l'acte, Frédéric Ancel.
Oui, c'est vrai. Alors attention, lorsqu'on parle de solitude, de loup solitaire, dans la manière de frapper, oui, c'est vrai qu'on en a vu un certain nombre ces dernières années. En revanche, sur le plan doctrinaire, ces gens-là sont, j'allais dire, une très grande collectivité malheureusement. C'est-à-dire que on n'a eu quasiment aucun cas depuis Khaled Kalkal, on va dire depuis 25 ans, de terroristes de nature, disons, djihadistes, à s'être radicalisé absolument tout seul, hein, sans avoir eu recours à une doctrine toute faite, à une espèce de box, entre guillemets, hein, en général d'ailleurs captée sur Internet, où on expliquait, où des fanatiques situés en France ou à l'étranger d'ailleurs, expliquaient à ces jeunes gens ce qu'était, encore une fois, entre guillemets, le véritable islam et la nécessité de perpétrer le djihad. Autrement dit, oui, il y a effectivement un certain nombre de gens qui ont frappé seuls ou en tout cas quasiment seuls. En général, vous avez quand même une complicité de une, deux ou trois personnes. En revanche, hein, sur le plan dogmatique, là, malheureusement, quand même, on a affaire à des gens qui ont été malheureusement formés par d'autres.
Frédéric Ancel, on va marquer une page de publicité peut-être et vous reviendrez avec nous dans une seconde pour poursuivre ces éclairages. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h29, attaque à Paris, attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux blessés en urgence absolue. C'est la préfecture de police qui a communiqué. Un suspect arrêté place de la Bastille, toujours selon la préfecture de police. Et aucun engin explosif détecté aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous avez peut-être entendu il y a quelques secondes le témoignage d'Héloïse, interrogée par Raphaël Vantard. Je vous propose de la réécouter.
Une personne qui en a attaqué d'autres à la hache. Et il a laissé la hache au pied du métro Richard Lenoir. Et les riverains sont descendus avec des bâtons pour essayer de, j'imagine, défendre les gens qui étaient là. Mais la personne s'est enfuie. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait beaucoup de victimes?
J'ai juste vu la hache au pied qui a été abandonnée là au pied du métro. Je sortais juste à ce moment-là, j'arrivais juste là au métro et j'ai cru en fait un monsieur est arrivé en civil avec une mitraillette. J'ai cru qu'il allait nous tirer dessus. Il y avait un autre monsieur avec moi, on a eu la même crainte. Et en fait, c'était quelqu'un déjà de la police qui est arrivé en premier, mais en civil. Et après, la police est arrivée après pour essayer de faire quelque chose. Et ensuite, ils ont fait venir les pompiers pour secourir les gens. Bonjour. Voilà.
Ça se passait dans la rue, du coup?
Juste là, boulevard Richard Lenoir, au pied du métro. Et dans cette rue et dans l'autre, là, elle est verte. Et il y avait un attroupement de riverains qui est descendu avec des bâtons, etc., pour essayer de, j'imagine, défendre les gens qui ont été attaqués.
Donc quel état vous êtes, vous? Ça revient dans ce quartier-là, ce quartier de Charlie?
C'est triste. C'est triste et une pensée pour les gens qui ont été blessés, en espérant qu'ils aillent bien.
Effectivement, on espère que ceux qui ont été blessés, qui sont annoncés en urgence absolue, vont pouvoir aller mieux ces prochaines minutes. Nous sommes avec Raphaël. Nous sommes Raphaël Vantard, qui est sur place.
Exactement, aux abords de cette rue Nicolas Appert, avec beaucoup d'agitation toujours, même si on sent les forces de l'ordre un peu moins sur le qui-vive. Il y a des signes qui ne trompent pas, il y a les casques qui ont un peu été enlevés de partout, signe que peut-être une intervention ou en tout cas un risque est un peu moins élevé, je dis bien un peu moins et pas forcément totalement écarté. Il y a aussi énormément d'attroupement parce que il y a les premiers officiels qui commencent à arriver aussi pour constater, épauler les forces de l'ordre. Ici, on a cru apercevoir tout à l'heure le procureur antiterroriste Rémi Heitz. Il est en grande discussion, là on le voit au loin, avec des forces de l'ordre, avec aussi les policiers de la police judiciaire qui sont en train de faire évidemment les premiers relevés, les premières investigations, parce que l'enquête démarre dès les premières minutes et c'est important pour éventuellement retrouver les traces d'autres suspects, si d'autres suspect il y a. Mais en tout cas, voilà, toujours beaucoup, beaucoup d'agitation et toujours un périmètre de sécurité très, très élevé ici avec tous les alentours qui sont totalement bloqués à la circulation et des policiers, mais également des militaires qui sont sur le qui-vive.
Merci Raphaël Vantard, Thomas Proutot. C'est important de le rappeler. Frédéric Ansel le disait tout à l'heure, la France est toujours sous la menace terroriste. Et il y a une sécurité en France qui est mise en place dans toutes les grandes villes.
Oui, on est toujours sous le plan Vigipirate, sécurité renforcée, risque attentat. C'est le niveau 2. Il y a trois niveaux sur ce plan Vigipirate. Alerte attentat, c'est quand on craint que des gens passent à l'acte immédiatement. On est au niveau en dessous. Chacun le voit tous les jours dans la rue, au nombre de policiers déployés, au nombre de militaires de Vigipirate qui patrouillent encore dans les grandes villes. Et surtout, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le service de police qui est leader sur cette question de l'antiterrorisme, a fait un point il y a un mois très précis pour expliquer que cette menace restait élevée, même si elle avait muté, c'est-à-dire que on craint beaucoup moins aujourd'hui des attaques organisées de l'extérieur avec des groupes structurés comme ça a été le cas pour le 13 novembre, mais beaucoup plus des individus isolés ou pas, enfin à des petits groupes qui peuvent eux-mêmes se lire la propagande tout seuls sans avoir besoin d'être déclenchés par l'État islamique. Ça s'est produit à plusieurs reprises ces derniers temps et c'est la crainte principale des services antiterroristes puisque ces gens, s'ils n'ont rien commis auparavant, sont extrêmement difficiles à repérer, avec une dimension aussi à laquelle on est toujours très attentif et c'est pour ça qu'il faut être encore très prudent sur cette attaque qui a eu lieu à Paris. C'est sur l'état de santé mentale, on va dire, de ces gens, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui qui ont de véritables problèmes psy, on va dire évidemment quand on commet un attentat on va pas très bien, mais qui ont de véritables problèmes psy et qui adhèrent encore plus facilement à cette propagande, à cette idéologie, à ces appels à l'attaque et qui sont aujourd'hui considérés comme étant du giron d'antiterrorisme et des risques à éviter. Voilà où on en est aujourd'hui, mais il a été réinsisté à la rentrée avec la présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur cette menace qui reste élevée de ce fait-là. Et alors, voilà, il va falloir déterminer dans les prochaines heures si on est dans ce cadre-là, si c'est ça qui s'est produit aujourd'hui.
William Galibert, c'est important également de rappeler que c'est la première fois que le gouvernement Castex, avec un nouveau ministre de l'Intérieur, est confronté à un attentat en France, puisque le dernier attentat en France, près de Paris d'ailleurs, c'était il y a 5 mois.
Oui, c'était à Colombes et quelques jours avant, au mois d'avril, une attaque aussi au couteau à Romans-sur-Isère. C'est vrai que c'est un changement de registre qui va s'annoncer pour ce gouvernement. Castex est en place depuis le 6 juillet. Jean Castex, avant d'être Premier ministre, c'était monsieur déconfinement et quand il a pris ses fonctions à Matignon, il s'est présenté comme l'homme des territoires, l'homme du dialogue avec les élus locaux, mais pas forcément comme l'homme des questions de sécurité intérieure ou alors seulement sous l'angle des incivilités ou des agressions qui ont pu avoir lieu cet été. C'est un nouveau costume qu'il va falloir maintenant endosser pour le Premier ministre et c'est aussi, vous le disiez, une première pour Gérald Darmanin, puisque jusqu'à présent c'est Christophe Castaner qui avait dû faire face aux attaques, notamment l'attaque du 3 octobre dernier à la préfecture de police de Paris. C'est une première pour ce binôme Matignon intérieur, Jean Castex, Gérald Darmanin, et ce sont d'ailleurs ces deux hommes qui se sont rendus en urgence place Beauvau, où une cellule de crise a été mise en place.
Et cette cellule de crise est en train d'analyser les premiers éléments d'une
enquête.
C'est ça,
on a des remontées d'informations en direct. C'est un lieu où tout est centralisé et où Jean Castex et Gérald Darmanin sont prévenus minute par minute du déroulé des événements, de l'arrestation du suspect et de l'état de santé des victimes. C'est là où les choses se mettent en place également, où la stratégie de communication du gouvernement va pouvoir se mettre en place. Tout ça avec une oreille attentive à 150 mètres de là. C'est celle d'Emmanuel Macron qui n'a pas fait les quelques pas qui séparent l'Élysée de la place Beauvau, mais qui est bien sûr lui aussi tenu au courant minute par minute et qui se tient prêt, si la situation venait à se dégrader, à éventuellement se rendre place Beauvau, ministère de l'Intérieur ou directement sur place.
Merci William, on va marquer une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et une émission spéciale, bien sûr, après cette attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo, deux blessés en urgence absolue, un suspect arrêté près de la Bastille, aucun engin explosif détecté aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo. Nous sommes avec Vincent Derosier, qui est place Beauvau, tout près de la cellule de crise, Vincent.
Absolument, une réunion qui a commencé maintenant un petit peu plus d'une heure ici, place Beauvau. Ce que je peux vous dire, c'est que le cortège de Jean Castex, le Premier ministre, est parti. Donc le Premier ministre lui a quitté temporairement cette réunion. Il va probablement suivre les événements depuis Matignon, alors que le président de la République, lui, est à quelques centaines de mètres, hein, à l'Élysée, dans son bureau, en train de suivre également les événements. Les prises de parole, pour l'instant, ne sont pas calées. Il pourrait s'agir de Gérald Darmanin, comme de Jean Castex. Le gouvernement est en train de voir qui peut s'exprimer dès qu'ils auront tous les éléments en leur possession pour faire un premier point public, une première intervention publique face aux médias. Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, tout ça est en train de bouger entre l'Élysée Matignon et le ministère de l'Intérieur. Et on saura ça probablement dans l'heure qui vient.
Et effectivement, pour le moment, aucun homme ou femme politique du gouvernement ne s'est exprimé. Nous sommes avec Jean-Michel Fauvergue, qui est député de La République En Marche et qui est l'ancien patron du RAID. Vous étiez présent lors de l'attaque de l'hypercacher. Bonjour, monsieur Fauvergue.
Bonjour.
Une première réaction, peut-être ?
Une première réaction, je suis comme vous, je suis dans l'expectative, on va attendre de voir comment les choses vont tourner, s'il y aura une deuxième interpellation, puisqu'on parlait de deux auteurs, on ne sait pas très bien. Ce que l'on constate, c'est que on est en face d'un acte qui ressemble à un acte terroriste. Maintenant, est-ce qu'on est sur quelqu'un ou peut-être deux personnes, je ne sais pas du tout, qui ont des problèmes psychologiques graves, puisque vous savez que le terrorisme souvent rejoint la folie et la folie rejoint le terrorisme. Donc on est sur cette surface là, sur ce périmètre là. On va voir comment les choses vont évoluer.
Thomas Proutot le disait tout à l'heure, la difficulté pour ces hommes ou ces femmes qui passent à l'acte et qui sont bien souvent seuls et qui ne sont pas forcément dans une organisation et qui échappent au radar, parfois même des services de sécurité. Jean-Michel Fauvergue, c'est une difficulté forcément pour les services précisément de sécurité.
Bah bien évidemment, à partir du moment où on n'est pas dans une filière structurée qui donc communique, se téléphone, fait des réunions, essaye de d'avoir du contact, à partir de ce moment-là où les services de renseignement et les services d'enquête sont privés de ce contact-là, à partir du moment où on est en face de quelqu'un qui agit seul avec peu de moyens, bien sûr que c'est difficile d'anticiper sur le réseau, d'anticiper avec des écoutes, d'anticiper par des moyens classiques d'enquête ou de renseignement. C'est toute la difficulté de ces gens qui agissent seuls au dernier moment, sans trop programmer les choses, parce qu'ils ont entendu parler dans le lieu. Il s'agit des parages de Charlie Hebdo. Donc voilà, c'est une vraie difficulté le passage à l'action de ces gens isolés, oui, bien sûr.
Et inévitablement, puisque c'est proche des locaux de Charlie Hebdo, chacun fait le lien avec le procès qui se tient actuellement. Est-ce qu'on pouvait imaginer précisément que durant cette période, les locaux de Charlie Hebdo soient peut-être gardés ou soient regardés de plus près qu'ils ne le sont d'habitude, les anciens locaux en tout cas?
Ah, vous savez, quand on garde des locaux, c'est parce que c'est pas pour la symbolique des locaux, c'est parce qu'il y a à l'intérieur des hommes et des femmes qui risquent d'être pris pour cible à partir du moment où il n'y a plus à l'intérieur d'hommes et de femmes qui sont pris pour cible. Ces locaux-là n'ont aucun intérêt à les garder plus que de coutume. La symbolique de Charlie Hebdo, elle n'est pas sur ses anciens locaux, elle est sur les locaux actuels, et elle est aussi sur ce procès non seulement le procès des gens qui sont derrière le box, mais aussi et surtout sur le procès des gens qui leur ont retourné la tête et de cet extrémisme religieux, de cet islamisme politique et des gens qui le soutiennent et qui y sont favorables.
Merci Jean-Michel Fauvergue. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron du RAID et que vous êtes député aujourd'hui de La République En Marche. Il est 13h44 sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Témoignage édifiant de Héloïse, recueilli par Raphaël Vantard et qui est témoin de ce qui s'est passé peu avant midi à Paris.
Une personne qui en a attaqué d'autres à la hache. Et il a laissé la hache au pied du métro Richard Lenoir. Et les riverains sont descendus avec des bâtons pour essayer de, j'imagine, défendre les gens qui étaient là. Un monsieur est arrivé en civil avec une mitraillette. J'ai cru qu'il allait nous tirer dessus. Il y avait un autre monsieur avec moi, on a eu la même crainte. Et en fait, c'était quelqu'un déjà de la police qui est arrivé en premier, mais en civil. Et après, la police est arrivée après pour essayer de faire quelque chose. Et ensuite, ils ont fait venir les pompiers pour secourir les gens. Bonjour. Voilà.
Ça se passait dans la rue, du coup ?
Juste là, boulevard Richard Lenoir, au pied du métro. Et dans cette rue et dans l'autre, là, elle est verte. Et il y avait un attroupement de riverains qui est descendu avec des bâtons, etc., pour essayer de, j'imagine, défendre les gens qui ont été attaqués.
Dans quel état vous êtes, vous ? Ça revient dans ce quartier-là, ce quartier de Charlie ?
C'est triste. C'est triste et une pensée pour les gens qui ont été blessés, en espérant qu'ils aillent bien.
Effectivement, cette pensée, nous la partageons avec cette témoin Héloïse. Raphaël Vantard est toujours sur place. Alice Moreno, avant cela, peut-être vous avez des nouveaux éléments à nous donner sur l'enquête qui est en cours.
Absolument, on vient tout juste d'apprendre qu'un deuxième individu a été interpellé. On avait des doutes jusqu'à présent sur la responsabilité d'une ou deux personnes recherchées. Finalement, c'est bien deux personnes qui ont été interpellées ce matin. La deuxième personne à l'instant, un premier individu avait été interpellé un peu plus tôt. Il était couvert de sang, ce qui avait avait évidemment alerté les policiers, l'important dispositif policier qui avait été déployé. Deux interpellations donc désormais, et le quartier toujours bouclé, de nombreuses écoles, de nombreux collèges, de nombreux lycées, les élèves y sont confinés. Cette mesure avait été prise par précaution. Cette mesure avait été prise à titre de précaution, puisque précisément on ignorait s'il y avait toujours un complice possible en fuite, s'il était armé ou non. On a entendu le témoignage de cette femme, Héloïse, qui évoquait un homme armé d'une hache. Donc l'autre personne recherchée était possiblement également armée dans la nature et dangereuse. Voilà les derniers éléments à ce stade. La brigade criminelle est toujours saisie de l'enquête et nous avons donc deux personnes qui ont été blessées à l'arme blanche, qui sont en urgence relative, mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés.
Deux suspects interpellés, et vous avez raison de le dire, parce qu'on l'a peu dit depuis 13 heures, mais il y a 7 lycées, il y a 2 collèges, il y a 5 écoles qui sont confinées. Et effectivement, on imagine l'inquiétude des parents, même si elle pourra se dissiper, je l'espère, ces prochaines minutes. Mais 7 lycées, 2 collèges, 5 écoles dans ce quartier du 11e arrondissement. Raphaël Vantard, vous avez peut-être croisé d'ailleurs des parents qui ont tenté de venir voir ce qui se passait auprès de ces lycées, auprès de ces collèges, auprès de ces écoles.
Je crois que surtout il y a un énorme effet de sidération hein, depuis une heure que s'est produit cette attaque ici au couteau, et que le premier réflexe des parents c'est d'abord sûrement d'appeler les collèges, et que je sais que voilà le boulot est fait de ce côté-là et que quelque part ils sont rassurés. Et l'autre réflexe c'est vraiment de rester calfeutré chez soi, d'abord parce que les conditions climatiques sont compliquées, vous l'entendez, il y a le tonnerre, il pleut très fort, et l'autre raison c'est que le quartier est complètement quadrillé hein, par les forces de l'ordre et par les militaires. C'est ce qui est impressionnant aussi, c'est ce qui rappelle les images aussi de 2015 avec ces militaires postés un petit peu partout dans les rues de la capitale. Là, c'est contingenté à ce quartier-là, et chaque riverain qui sort ici doit être accompagné d'au moins un ou deux policiers. Il est escorté jusqu'à son lieu final, si c'est pour prendre le métro ou quitter la zone. C'est vous dire si c'est très 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 compliqué hein, pour les riverains qui sont encore vraiment sous choc, abasourdis. Ils nous le disent aussi hein, on revit un petit peu ce qu'on a vécu au moment de 2005, et il y a ce petit cet énorme effet de sidération, tandis que là sous nos yeux actuellement c'est la police scientifique hein, qui est en combinaison blanche, en train de prendre les premiers prélèvements pour essayer d'avancer au plus vite sur cette enquête. Les officiels, notamment le procureur de la République, est toujours sur place. Il épaule aussi les enquêteurs pour les premières investigations. Et voilà, pour le moment, pas d'autres officiels sont sur place. C'est les policiers qui travaillent activement ici, rue Nicolas Appert. J'ajoute qu'on a un petit peu des éléments d'information qui nous remontent sur les premiers blessés. Et on sait que parmi ces blessés, il y aurait deux journalistes de l'agence Première Ligne, c'était les voisins de Charlie Hebdo, et ce sont eux qui auraient été touchés, deux personnes donc de cette agence de presse.
Effectivement, et on sera tout à l'heure, on pourra entendre le témoignage de Paul Morera, qui est précisément le fondateur de l'agence de presse et société de production audiovisuelle Première Ligne, qui était installée au-dessus des anciens locaux de Charlie Hebdo. Après la publicité, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes ensemble depuis 13h pour évoquer cette attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux blessés en urgence absolue. C'est la préfecture de police qui confirmait cette information. Alice Moreno, vous pouvez nous donner les derniers éléments de l'enquête.
Eh bien, un deuxième suspect a été interpellé. On l'a appris il y a quelques minutes. On ignore exactement où est-ce qu'il a été appréhendé. Peut-être dans le métro. On savait que par plusieurs sources policières que les deux hommes qui étaient suspectés d'être l'auteur de cette attaque avaient pris la fuite certainement en métro. Un premier homme avait été interpellé dans le courant de la matinée au niveau du quartier Bastille. Il était couvert de sang. Et donc ce deuxième suspect vient d'être arrêté. On entendait nos reporters sur place qui disaient d'ailleurs hein, que les policiers avaient retiré leur casque. Ils ont un petit peu baissé la garde. Mais pour pour l'heure, un certain nombre d'établissements scolaires, écoles, collèges, lycées sont toujours fermés. Les élèves y sont confinés. C'était donc à titre de précaution, en attendant peut-être de trouver ce suspect, ce complice potentiel. Voilà, à ce stade, les informations dont nous disposons. La brigade criminelle est saisie de l'enquête et le quartier est toujours bouclé. Hein.
Et c'est l'occasion évidemment de rappeler, comme on le fait depuis 13 heures, la menace terroriste qui existe sur la France, sur l'Occident en général, et qui n'a pas disparu, Thomas Proutot.
Oui, elle n'a pas disparu, encore une fois, elle a probablement muté, puisque l'État islamique, vous le savez, a été en partie défait en Syrie, il n'a plus de base forte, de place forte, le groupe s'est explosé un petit peu partout, donc la propagande elle-même est beaucoup moins forte, beaucoup moins intense sur les réseaux sociaux, mais elle est toujours là, et encore une fois, le risque s'est déplacé vers des actes souvent commis, des actes ou des attaques souvent commis par des individus isolés. Alors, à partir de là, il y a un peu deux catégories quand même. Il y a ceux qui sont radicalisés, qui ont été exposés à la propagande depuis quelques jours, quelques semaines, et qui s'inscrivent dans une dimension terroriste, même si chez eux, il y a un déséquilibre. Et un peu une autre catégorie d'individus où sont vraiment des gens vraiment malades psychiatriquement, complètement dérangés, qui en une minute, comme ça, vont décider de prendre une arme blanche et d'aller faire une attaque. C'est ça qu'on doit savoir. Est-ce que là, on est face à quelqu'un qui a été sensible, entre guillemets, aux appels d'Al-Qaïda, justement, à relancer des attaques sur Charlie Hebdo ? C'était il y a 10 jours, enfin, un peu plus, que Al-Qaïda a officiellement, dans son magazine hebdomadaire en ligne, appelé ses partisans à attaquer Charlie Hebdo, ce qui avait jeté vraiment un froid à la fois sur le procès et fait relever le niveau de sécurité, de protection de l'ensemble des membres de Charlie Hebdo et de ses locaux. Donc, est-ce qu'on s'inscrit dans cela ou au contraire dans quelqu'un alors qui pourrait avoir entendu Charlie, mais sans vraiment une dimension terroriste réfléchie? La seule chose qui peut faire un peu douter, évidemment, c'est qu'il commet son acte rue Nicolas Appert, lieu des anciens locaux de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est malgré tout pour le symbole ou est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient déménagé? Voilà, on sait aussi que
ça semble ou ça pourrait être une signature.
Voilà.
Que c'est rue Nicolas Appert.
Voilà, il faut attendre que la brigade criminelle avance dans son enquête. Ce qui est important aussi, bien entendu, c'est que l'on sait que désormais, ce sont deux journalistes qui ont été touchés par cette attaque. On entendra tout à l'heure Paul Morera, je crois, de l'agence Première Ligne, hein, ces journalistes travaillent.
On va l'écouter maintenant, Paul Morera.
Maintenant, il est journaliste. C'est important, puisque ce sont donc des journalistes. Est-ce qu'eux aussi ont été visés à dessein ?
On va l'écouter maintenant. Il est journaliste, il est reporter, il est réalisateur, vous le connaissez sans doute. C'est lui qui a fondé l'agence de presse et société de production audiovisuelle Première Ligne, qui est au-dessus des anciens locaux de Charlie Hebdo. Laurent Marsic l'a joué au téléphone.
Un type avec une arme blanche qui a attaqué deux personnes qui se trouvaient devant l'immeuble de notre agence. Il y a donc deux personnes de chez nous qui sont blessées gravement. Là, pour l'instant, ils ont évacué l'immeuble, ce qui est un geste bien inutile puisque l'attaquant est parti par le métro, je crois. Je sais pas très bien.
L'agence n'avait reçu aucune menace particulière.
Non, on n'a pas eu d'appel particulier. Non, rien de. Enfin, moi, à l'instinct, je pense que c'est lié au procès Charlie Hebdo. Voilà, c'est un faible d'esprit pour qui l'immeuble symbolise Charlie et voilà, attaque l'immeuble, quoi. Puisqu'il a pris des gens au hasard dans la rue, quoi.
Il a dit quelque chose ou pas du tout ?
Pas qu'on sache.
Là, vous êtes tous évacués de l'immeuble, c'est ça ?
Ouais. Et on a des nouvelles de l'un de nos blessés, qui est Pierre Adrien, qui est sorti de salle de réveil. Donc, il avait été blessé gravement, mais. Et Lucie, on ne nous donne pas d'informations pour l'instant. Voilà.
Il n'y avait pas de mesure de sécurité particulière ?
Aucune mesure de sécurité n'avait été appliquée à l'immeuble pendant le procès.
Donc ces deux blessés en urgence absolue sont issus de l'agence Première Ligne, comme le disait à l'instant Paul oui. Morera. Et ce qu'on apprenait avec le témoignage de Paul Morera, c'est que cette attaque s'est passée précisément devant les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo.
Oui, exactement, en fait, devant la plaque d'ailleurs commémorative où chaque année, il y a la cérémonie en mémoire des victimes à la fois de Charlie Hebdo et des gens qui étaient dans l'immeuble. Vous savez qu'ils étaient nombreux. Évidemment, c'est un élément très important car le lieu a été vraiment choisi de manière déterminée et volontaire.
La publicité, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Le flash avec Olivier Bois.
Et le point d'abord évidemment sur cette attaque au couteau en plein Paris ce matin juste après 11h dans le 11e arrondissement devant les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux personnes ont été blessées. On parle de deux interpellations à 7h. Écoutez le témoignage d'Héloïse qui a vu cette attaque ce matin au micro de Raphaël Vantard.
Une personne qui en a attaqué d'autres à la hache. Et il a laissé la hache au pied du métro Richard Lenoir. Et les riverains sont descendus avec des bâtons pour essayer de, j'imagine, défendre les gens qui étaient là. Mais la personne s'est enfuie. J'ai juste vu la hache au pied qui a été abandonnée là au pied du métro. J'ai cru en fait un monsieur est arrivé en civil avec une mitraillette. J'ai cru qu'il allait nous tirer dessus. Il y avait un autre monsieur avec moi, on a eu la même crainte. Et en fait, c'était quelqu'un déjà de la police qui est arrivé en premier, mais en civil. Et après, la police est arrivée après pour essayer de faire quelque chose. Et ensuite, ils ont fait venir les pompiers pour secourir les gens. Bonjour. Voilà.
Le témoignage d'Héloïse, donc témoin de cette attaque ce matin. On va retrouver Sina Mir en direct dans le secteur. Sina, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur ce qui s'est passé à 11h15, ce qu'on sait de cette attaque précisément?
Eh bien, ce que l'on sait, c'est que autour des anciens locaux de Charlie Hebdo, précisément à l'endroit où la plaque commémorative est installée depuis le 7 janvier 2015, un assaillant a pris pour cible deux journalistes de l'agence Première Ligne. Première Ligne, c'est cette agence qui partageait les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo, et qui occupe toujours ses bureaux là-bas, et qui ont été donc pris pour cible par un assaillant qui aurait été armé d'un hachoir. C'est ce que la direction de l'agence Première Ligne nous a transmis comme information. Cet assaillant ensuite a tenté de prendre la fuite, a laissé gravement blessé, on dit en état d'urgence absolue, les deux journalistes dans cette rue Nicolas Appert du 11e arrondissement. Il a pris la direction du métro et c'est là où il aurait été interpellé aux alentours de la place de la Bastille par des policiers. On parle aussi également maintenant d'une deuxième interpellation qui serait liée à cette attaque. Actuellement, vous l'imaginez, le secteur est toujours bouclé. Il y a un très nombreux équipages de policiers, de la BRI notamment, de la force sentinelle, des militaires, des pompiers qui sont sur place également pour essayer de sécuriser la zone et permettre actuellement au procureur Rémy Hettre, procureur de Paris qui s'est rendu sur place, de faire les premières constatations autour des locaux de cette agence Première Ligne. Tout ça maintenant dans des rues complètement bouclées et assez désertes puisque les policiers depuis le boulevard Beaumarchais, donc d'un côté de la place de la Bastille jusqu'au boulevard Richard Lenoir où cette petite rue Nicolas Appert se trouve au milieu, sécurisent tout le périmètre.
Merci beaucoup Sina Mir. Les écoles ont été bouclées, d'ailleurs les élèves sont maintenu en classe, on demande aux parents de ne pas venir les chercher. C'est une mesure, on le précise, de précaution évidemment pour le moment. Alice Moreno du service police-justice en studio ici à RTL. Deux interpellations donc, c'est une information qui se confirme du côté de la police.
Absolument, un deuxième homme a été interpellé, nous l'avons appris il y a quelques minutes. Alors on ignore quel rôle il aurait pu jouer effectivement. Est-ce que c'était un complice du premier homme interpellé, puisque je le rappelle, un premier homme avait été arrêté dans le secteur Bastille et il était couvert de sang, ce qui laissait assez peu de doutes sur son implication potentielle. C'est peut-être lui qui a porté les coups aux deux journalistes de Première Ligne. Nous attendons toujours des éléments de profil sur ces deux hommes. Effectivement, il y avait deux photos, deux hommes qui circulaient sur les réseaux. Et ils seraient alors d'origine pakistanaise. Cela reste encore à confirmer.
Merci beaucoup Alice Moreno. En tout cas, le parquet national antiterroriste est saisi de cette enquête. Preuve évidemment que l'hypothèse terroriste est évoquée. Je rappelle que cette attaque a eu lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. On va rejoindre Vincent Derosier en direct de la place Beauvau. La cellule de crise s'est mise en place très rapidement. Les ministres, Gérald Darmanin, le Premier ministre, est-ce qu'ils sont attendus sur place ?
Alors absolument Olivier, ça vient de bouger. La voiture de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a quitté la place Beauvau il y a quelques instants. Il doit se rendre sur place dans le 11e arrondissement, même s'il faut encore confirmer cette information. Mais Gérald Darmanin semble parti pour le 11e arrondissement. Jean Castex, lui, a quitté cette réunion un peu avant 13h30. Le Premier ministre suit désormais l'avancée de l'enquête depuis Matignon, comme le président qui a choisi de rester informé, mais depuis l'Élysée. Alors qu'il est, on ne sait pas qui prendra la parole à l'issue. Alors bien sûr, Gérald Darmanin, s'il se rend sur place, il devrait faire une déclaration en premier. C'est lui, le ministre de l'Intérieur, qui prendra la parole. Mais une prise de parole de Jean Castex est encore à l'étude en ce moment, disait un conseiller de Matignon tout à l'heure.
Merci beaucoup Vincent de Rosé du service politique d'RTL. On le disait, cette attaque a eu lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, dans les actuels locaux de cette agence de presse Première Ligne. Julien Fautra a pu recueillir le témoignage de Paul Morera, qui est le fondateur de cette agence. Ce sont ces journalistes qui ont été blessés au cours de cette attaque.
Un type avec une arme blanche qui a attaqué deux personnes qui se trouvaient devant l'immeuble de notre agence. Il y a donc deux personnes de chez nous qui sont blessées gravement. Là, pour l'instant, ils ont évacué l'immeuble, ce qui est un geste inutile puisque l'attaquant est parti par le métro, je crois. Je sais pas très bien.
L'agence n'avait reçu aucune menace particulière.
Non, on n'a pas eu d'appel particulier. Non, rien de. Enfin, moi, à l'instinct, je pense que c'est lié au procès Charlie Hebdo. Voilà, c'est un faible d'esprit pour qui l'immeuble symbolise Charlie et attaque l'immeuble, quoi. Puisqu'il a pris des gens au hasard dans la rue, quoi.
Il a dit quelque chose ou pas du tout ?
Pas qu'on sache.
Là, vous êtes tous évacués de l'immeuble, c'est ça ?
Ouais. Et on a des nouvelles de l'un de nos blessés, qui est Pierre Adrien, qui est sorti de salle de réveil. Donc, il avait été blessé gravement, mais. Et Lucie, on ne nous donne pas d'informations pour l'instant. Voilà.
Okay, il n'y avait pas de mesure de sécurité particulière ?
Aucune mesure de sécurité n'avait été appliquée à l'immeuble pendant le procès.
Voilà le témoignage de Paul Morera, le fondateur de cette agence de presse Première Ligne, dont les journalistes ont été visés par l'attaque ce matin. On le rappelle, une attaque avec deux personnes à ce stade, donc interpellées, deux blessés, mais dont le pronostic vital ne serait plus engagé. On rejoint quelques secondes. Vincent de Rosier, c'est confirmé. Le Premier ministre Jean Castex se rend lui aussi sur place avec Gérald Darmanin.
Absolument, c'est le petit complément d'info que je voulais vous donner. Jean Castex est parti de Matignon, il rejoint Gérald Darmanin sur place dans le 11e arrondissement. Les deux, donc, après cette réunion interministérielle de crise Place Beauvau, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se rendent sur place.
Merci beaucoup Vincent de Rosé pour cette toute dernière précision. Un mot de météo pour terminer. La météo de demain, toujours assez instable avec en Bretagne, dans le nord, dans l'est, dans le sud-ouest, de la pluie demain matin, des éclaircies autour de la Méditerranée, les températures entre 8 et 10 degrés à peu près partout sur tout le territoire, 13-14 degrés autour de la Méditerranée. La maximale, ce sera à Nice, 18 degrés.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et dans quelques secondes, nous serons avec Stanislas Godon, qui est secrétaire national du syndicat de police Alliance Nationale. Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 pour les dernières informations de cette attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 14h11, je vous rappelle cette attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. En fait, devant la plaque qui immortalisait le souvenir de ceux qui sont morts dans cet attentat de janvier 2015. L'hypothèse terroriste est désormais envisagée, Thomas Proutot.
Oui, puisqu'on a appris il y a quelques minutes que le parquet national antiterroriste s'était saisi de l'affaire. Parquet national qui est donc le seul compétent quand on présume qu'il s'est agi effectivement d'une attaque à caractère terroriste. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça l'est, mais enfin, on a quand même un certain nombre d'éléments. Il y a ceux qu'on connaît et ceux qui sont déjà connus des services d'enquête que l'on ne connaît pas. Pour ceux qu'on connaît, il y a le mode opératoire, c'est-à-dire le hachoir en se précipitant sur des gens. Pour ce qui est ensuite de l'adresse, évidemment, plus que symbolique, c'est devant les locaux de Charlie Hebdo. Et puis, il y a cette fuite. Cela semble suffisant, si vous voulez, en plein Paris, évidemment, pour présumer d'un acte terroriste. En fait, ça ne change pas forcément beaucoup de choses, puisque c'est les mêmes services d'enquête qui vont travailler, avec tout de même la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui va être sollicitée pour screener, pour très vite tenter d'identifier cette personne, et que l'on puisse savoir si elle avait déjà été repérée. C'est toujours très important, si elle était surveillée, si elle était écoutée, si ses connexions Internet l'étaient, ou si on est face à un individu inconnu et qui a tout d'un coup, comme cela, surgi avec ce projet d'attaque. Voilà. Donc, en tout cas, dorénavant, c'est le parquet national terroriste qui est saisi, qui va mettre tous les moyens en œuvre, qui sont plus importants que les moyens classiques, on va dire, pour faire avancer cette enquête.
Il y a deux blessés en urgence absolue. Ces deux blessés appartenaient à l'entreprise Première Ligne, qui est une agence de presse et de société de production audiovisuelle. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure Paul Morera. Deux personnes avec qui il travaillait ont été
été blessé. Il a eu des nouvelles rassurantes d'une des deux personnes qui sortaient de salle de réveil. Et en revanche, il était sans nouvelles de sa deuxième consœur, puisque ce sont nos confrères qui étaient visés. Stanislas Godon est secrétaire national du syndicat de police Alliance Nationale. Bonjour, monsieur Godon.
Bonjour.
Cet événement dramatique nous rappelle que la France reste sous une menace terroriste quotidienne.
Oui, exactement. Et évidemment, le symbole est très fort, hein, rue Appert. Ça nous rappelle, notamment à l'occasion de ce procès de Charlie Hebdo, notamment que la menace terroriste, effectivement, n'a pas baissé en intensité et que elle peut frapper par tous les moyens. D'ailleurs, c'était aussi les directives qui avaient été données par Daesh, rappelez-vous, 2013-2014, où par tous moyens, il fallait attaquer notamment tout ce qui pouvait être notamment représentant de la France, par exemple. Hein, c'était le cas notamment des policiers. Ça peut être aussi le cas des valeurs symboliques et notamment dans cette rue Appert du 11e arrondissement avec deux blessés graves en urgence absolue.
Merci Stanislas Godon et je rappelle effectivement que l'homme qui a attaqué les deux personnes de l'agence Première Ligne se trouvait devant la plaque commémorative de ceux qui sont tombés et qui appartenaient à Charlie Hebdo. Raphaël Vantard est toujours sur place dans le 11e arrondissement. Jean Castex et Gérald Darmanin sont attendus d'une seconde à l'autre, Raphaël.
Arrivé imminente puisque les hommes de la BRI ont pris position dans cette rue. Ils ont le casque évidemment vissé sur la tête, les armes au poing et des boucliers aussi. Tout cela pour sécuriser au maximum évidemment l'arrivée de ces deux ministres d'ici quelques instants. Ce qu'on peut dire également aussi, hein, c'est que le quartier reste évidemment bouclé encore plus avec l'arrivée de ces ministres, mais il l'était déjà il y a quelques instants depuis l'attaque terroriste tout à l'heure. Les écoles sont toujours confinés dans le 3e, dans le 4e mais et dans le 11e arrondissement où nous nous trouvons pour évidemment éviter tout risque éventuel d'une autre attaque qui pourrait avoir lieu. En tout cas, voilà. Et puis les forces de l'ordre font tout ce qui est dans leur possible pour sécuriser au maximum tout à l'heure la sortie des classes qui se passera normalement dans de très bonnes conditions. Les parents d'élèves, pour l'instant, ne sortent pas trop pour aller voir parce qu'évidemment, il y a toujours cet effet de sidération qui marque un quartier qui cicatrise encore des attentats de Charlie Hebdo. Donc forcément, il n'y a pas forcément de gens qui sortent pour aller voir s'ils peuvent aller récupérer leurs enfants. Et en tout cas, ici, voilà, rue Nicolas Appert, tout est prêt pour l'arrivée des ministres. La BRI est sortie et elle est prête tout à l'heure à sécuriser la visite des deux ministres Jean Castex et Gérald Darmanin sur place.
Et vous rappeliez effectivement que des enfants, des élèves sont encore confinés. 7 lycées, 2 collèges, 5 écoles. On peut avoir évidemment une pensée et toute l'empathie pour ces parents qui sont dans l'inquiétude depuis de nombreuses minutes désormais. C'est une nouvelle fois le 11e arrondissement qui est touché. C'est un témoignage de Karim que vous allez entendre, habitant du 11e arrondissement.
Pourquoi il se passe encore ça? C'est ça la question. Et moi je me dis, quand il y a une maladie, on cherche la cause. Comment prévenir? Comment guérir? Il faut chercher des causes, il faut chercher à en prévenir et même à guérir son mot, si c'est une maladie. Voilà, c'est une métaphore que j'utilise.
C'est très beau.
C'est sûr qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais comment et jusqu'à quand?
Quand vous voyez aussi le quartier qui est ici, qui a vécu aussi au moment des attentats des...
Moi, ce quartier, je l'aime beaucoup. C'est un très beau quartier. Il fait beau à vivre.
Il est encore meurtri par ce qui s'est passé. Les gens en parlent de temps en temps.
Depuis la commémoration, on n'en parlait pas de ça régulièrement. Mais dès qu'on se rappelle qu'il se passe quelque chose, on se dit... On voit bien que ça ne repasse pas, que ce soit ici ou ailleurs.
Il y a la tristesse quand même, on sent dans les champs du quartier.
C'est sûr, dès que ce n'est pas une chose qu'on souhaiterait qu'il se passe, c'est triste. Dès que c'est une surprise, dès que c'est un coup fort, un coup dur comme ça, ça tape les émotions. Voilà.
Tristesse et sidération avec ce témoignage de Karim. Je vous propose de marquer une pause et nous continuerons avec les dernières informations qui arrivent sur cette attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo, 2 blessés en urgence absolue, 2 suspects interpellés, enquête ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Beaucoup de témoignages depuis 13 heures. Je vous propose d'écouter celui de Élise Lucet, notre consoeur de France 2, qui a travaillé avec l'agence Première Ligne et Paul Moreira.
A priori, il y a deux collaborateurs donc de première ligne télévision qui ont été blessés lors de cette attaque en fin de matinée, un homme et une femme. Je peux vous dire que la jeune femme en question a été transférée à l'hôpital Georges Pompidou. Ils ont immédiatement été pris en charge très rapidement par des pompiers qui sont d'ailleurs restés assez longtemps sur place parce que je pense que leur état était assez grave et qu'il fallait peut-être stabiliser leur état avant de les transférer ensuite vers un hôpital. Ce que je peux vous dire aussi à l'heure à laquelle on se parle, c'est que toute l'équipe de première ligne télévision est en ce moment avec les policiers. Le GIGN est en train de fouiller tout l'immeuble. Et une de nos collaboratrices a, je pense, sera un des témoins numéro un, parce qu'elle a très clairement vu dans la rue l'assaillant poursuivre un de nos collaborateurs qui était déjà blessé et ensanglanté, et le poursuivre pour continuer à le frapper. Voilà ce que je peux vous dire de tout ce que les salariés de première ligne m'ont dit ce matin.
Élise Ducey, donc, au micro de France 2, il y a quelques minutes. Claude Ibanez est avec vous. Bonjour, monsieur Ibanez.
Bonjour, monsieur.
Vous habitez dans la rue Nicolas Appert et vous êtes riverain première ligne de cette agence qui était visée aujourd'hui. Et vos fenêtres, vous avez pu voir depuis vos fenêtres la fin de l'attaque.
Absolument. Donc j'ai entendu des cris, enfin des hurlements de la part de cette dame. Donc j'étais à proximité de la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu donc cette dame ensanglantée, blessée à la tête, au visage, et qui hurlait, qui est tombée. Et donc des personnes sont venues la secourir et l'ont fait rentrer dans un dans un cabinet, c'est une usine juste en face. Et puis en même temps, j'ai vu plusieurs personnes sortir avec des barres de fer, courir après ce que j'ai supposé être l'assaillant. Voilà. Et ensuite, les pompiers sont arrivés, etc. quoi. Voilà.
Mais lorsque vous avez vu la fin de cette attaque, cette jeune femme était seule avec son agresseur ou déjà il y avait des gens qui avaient entendu des cris et qui s'étaient déplacés vers l'agresseur ?
Oui, c'est exactement ça. C'est la deuxième version que vous donnez, c'est-à-dire qu'elle était seule, effectivement, et il y avait des gens qui, autour d'elle, en même temps, la secouraient, mais il y en avait d'autres qui couraient après l'agresseur. Mmh. Voilà.
C'est parce que ces gens sont intervenus, sans doute, que cet agresseur a pris la fuite.
Oh, je pense, oui, je pense.
Et d'une certaine manière, ces gens ont pu sauver cette jeune femme, dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs, qui est à l'hôpital Georges Pompidou pour le moment, alors que l'homme que citait tout à l'heure Paul Morera, il citait son prénom, donc je vais le dire également, Pierre-Adrien, il avait eu des nouvelles plutôt rassurantes, entre guillemets, puisqu'il était sorti de salle de réveil. Mais cette femme, nous n'avons pas de nouvelles pour le moment. Mais ce que je comprends avec votre témoignage, c'est que l'intervention des riverains ou des personnes qui étaient autour, a pu d'une certaine manière sauver cette jeune femme.
Je pense, évidemment. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas vu l'agresseur. J'ai vu la personne hurler, il y avait des personnes autour d'elle, et puis j'ai vu tout un tas de personnes qui sortaient des bureaux avec des barres de fer, quelques-uns avec des barres de fer, pour courir d'une part dans la rue Gabi Silva, et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez où se trouvent les anciens... les anciens locaux de Charlie Hebdo, donc c'est la rue parallèle de l'autre côté, hein, du côté ouest, et ils sont remontés, si vous voulez, tout le monde remonté de ce côté-là pour essayer d'arrêter l'agresseur présumé. Quoi. Voilà.
Entre le moment où cette femme a reçu peut-être les premiers secours des riverains et l'arrivée des services médicaux, il s'est passé combien de temps ?
C'est vraiment très rapidement, monsieur, très rapidement. Ça m'est difficile pour moi de vous dire combien de temps, mais bon, moi j'ai le souvenir, si vous voulez, des attaques de Charlie Hebdo, puisque j'habitais déjà là, j'étais déjà présent à ce moment-là, et je peux vous dire que c'était largement beaucoup plus rapide que les interventions, si vous voulez, des pompiers et de la police à ce moment-là, au moment des attentats de Charlie Hebdo. Vraiment très rapidement.
Merci de votre témoignage et là aussi on ne peut avoir qu'une immense compassion pour cette jeune femme et pour évidemment ses proches. Alice Moreno, les dernières informations que vous connaissez ?
Alors, nous avons les informations dont nous disposons. C'est deux interpellations à ce stade. Deux hommes interpellés, deux suspects. Un premier dans le courant de la matinée dans le secteur Bastille qui portait des traces de sang. Donc, potentiellement l'auteur de l'attaque à l'arme blanche. Il aurait utilisé un hachoir, une hache pour s'en prendre donc à ces journalistes de l'agence Première Ligne. Et puis, un deuxième homme a été interpellé un peu plus tard dans le métro. On ignore quel rôle il a pu jouer. Il était effectivement question d'un deuxième homme dès le début, mais on n'avait pas la certitude qu'il y avait effectivement peut-être un complice, un homme potentiellement dangereux. En tout cas, dans le quartier, un certain nombre d'établissements scolaires ont été bouclés et les élèves confinés par mesure de précaution.
Et ce qu'on ne sait pas, c'est si l'homme qui a attaqué cette jeune femme est le même homme qui a attaqué notre confrère. C'est ça que nous ne savons pas pour le moment. Si les deux suspects ont attaqué chacun deux personnes différentes.
Effectivement, ça on ne le sait pas pour l'instant.
William Galibert, William...
Et on attend maintenant, Jean Castex, le Premier ministre, et Gérald Darmanin sur place. Ils vont arriver, après des heures et des heures à ferrailler avec des élus du Sud et de Marseille sur des questions sanitaires. Voilà, ça fait aussi partie du quotidien du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Changement total de registre pour eux. Et ils vont arriver sur un lieu qui est marqué d'histoire et de mémoire. On parlait de cette plaque commémorative. Il y a aussi une fresque juste à côté où on aperçoit le visage des victimes de Charlie. Une fresque aussi non loin de là qui représente Ahmed Merabet, le policier qui avait été tué sur place. Et ce sera pour eux le premier contact avec une actualité terroriste.
Thomas Proutot, la menace terroriste, on le dit depuis 13 heures, elle est présente en France.
Oui, elle est toujours présente en France. Menace régulièrement qualifiée de élevée par à la fois le ministère de l'Intérieur et les différents services antiterroristes. Une menace, encore une fois, qui a changé. On ne parle plus aujourd'hui, on ne craint beaucoup moins des attaques venues de l'extérieur avec des groupes constitués, des actes relativement préparés, comme l'ont été bien sûr les attentats de 2015, aussi bien en janvier qu'en novembre. Mais exactement ce qui semble s'être produit ce matin, on reste encore prudent, hein, évidemment, puisque on n'a aucune information sur le profil des deux suspects qui ont été interpellés. Encore une fois, c'est ce qui semble s'être produit, des individus qui vont adopter, qui vont reproduire les gestes suggérés par l'État islamique ou par Al-Qaïda pour commettre des attaques terroristes.
Ainsi va s'achever cette émission spéciale. Vous allez pouvoir retrouver Flavie Flamand à 14h30. Merci à Alice Moreno, merci à Thomas Proutot du service Police Justice, merci à William Galibert, merci à Damien Béchiot, merci à Philippe Rey qui était avec nous en régie, merci sur le terrain à Raphaël Vantard et à Vincent Derosier, et le flash dans une seconde avec Olivier Bois qui va nous faire un point complet à 14h30. J'ai dû oublier Sinamir également et Yann Boucherie qui était présent pour organiser et récolter ces témoignages. À tout de suite.